Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Alain, pour ces propos introductifs que je n'ai pas entendus. on va continuer sur les infections à germes intracellulaires, à bactéries intracellulaires facultatives pour Listeria. L'approche qu'on suit, c'est d'essayer de comprendre les mécanismes des infections pour évidemment leur intérêt biomédical, comprendre les mécanismes pour mieux prévenir, pour mieux diagnostiquer, traiter. Et aujourd'hui, la médecine, comme vous le savez, est devenue scientifique, contrairement à l'approche purement empirique et historique. Et puis, on est aussi guidé par la curiosité, le désir de comprendre, de savoir. Et donc, comme vous allez le voir, on peut approcher des questions comme l'homéostasie cellulaire, tissulaire ou de l'hôte, la pathogénicité des agents microbiens, les réponses de l'hôte, l'évolution de l'hôte et du pathogène, toutes notions dont Alain vous a parlé il y a quelques minutes. Et donc ici, l'idée, c'est d'expliquer comment Listeria induit une infection disséminée, non seulement pour elle-même, mais comme modèle pour comprendre ce processus qui implique des facteurs microbiens et de l'hôte. Et vous allez comprendre au cours de la présentation pourquoi j'ai utilisé ce titre. Alors je vais commencer par un contre-exemple. La listériose, c'est une infection bactérienne d'origine alimentaire qui est grave et due à une bactérie qui s'appelle Listeria monocytogenes. Mais il y a d'autres infections bactériennes d'origine alimentaire. L'une d'entre elles est la shigellose ou la dysenterie bacillaire de nos ancêtres. Et tous les opposent, en fait. Pour déclencher une shigellose, il faut très peu de bactéries et ça va déclencher des symptômes au niveau intestinal très importants. Entraîner de la fièvre, une diarrhée glérosanglante, c'est ce qu'on appelle le syndrome dysentérique, qui se traduit en fait au plan tissulaire par de l'inflammation, des dommages tissulaires, et qui traduit en fait une stimulation très forte de l'immunité innée. Et ceci corrèle avec l'absence de dissémination systémique, c'est-à-dire que l'infection reste locale. Si on fait des hémocultures, pour les médecins d'entre vous, elle reste négative en règle, et pourtant l'infection est très spectaculaire. Et en fait, dans le cadre de déficit immunitaire d'acteurs de l'immunité innée, comme ici IRAK4, eh bien, la shigellose peut devenir une infection disséminée, ce qui montre bien le rôle critique que vous connaissez de l'immunité innée dans le contrôle, par le biais de l'inflammation et de tous ses effets, dans le contrôle de la dissémination des agents infectieux. Et finalement, la listériose, c'est à peu près tout le contraire. Il faut un inoculum très élevé pour induire une maladie chez l'homme. La phase intestinale est vraiment silencieuse, on peut dire. Très peu de symptômes, très peu d'inflammation au plan histologique, au niveau intestinal. Et ceci traduit, comme je vais essayer de vous le montrer, un possible échappement à la réponse immune, au moins innée, et corrèle avec une dissémination systémique. Alors, qu'est-ce que la listériose ? Donc, comme je vous l'ai dit, la porte d'entrée intestinale, les bactéries qui se retrouvent dans la lumière intestinale, elles peuvent survivre à l'acidité gastrique, aux selles biliaires, se multiplier, s'installer et traverser la barrière intestinale pour disséminer par voie sanguine et lymphatique et finalement atteindre des organes comme le foie et la rate, où elle va pouvoir se multiplier, particulièrement en cas de déficit de l'immunité cellulaire, on y reviendra, et dans un deuxième temps par voie sanguine, atteindre ces organes cibles que sont le système nerveux central d'une part et l'unité fœtoplacentaire d'autre part. Ce qui fait qu'au cours de l'infection, Listeria a la capacité de traverser trois barrières, la barrière intestinale, la barrière entre le sang et le cerveau qu'on appelle barrière hémato-encéphalique et la barrière materno-fœtale placentaire. Et donc étudier les mécanismes qui expliquent la dissémination de Listeria, c'est aussi essayer de comprendre comment un pathogène peut traverser ces barrières qui, par définition, sont censées être étanches. Alors, quelques mots sur la listériose humaine. Bon, quand on travaille sur un sujet, on veut toujours dire qu'on travaille sur un sujet assez important, donc c'est une infection grave. Ceci dit, il n'y a pas beaucoup d'infections dont le taux de mortalité est de l'ordre de 30%. C'est une infection relativement rare, 400 cas cumulés en France, et on le sait grâce à une déclaration obligatoire des cas. Il faut dire que la France a été un peu championne du monde de la listériose compte tenu des aliments qui véhiculent Listeria monocytogenes, comme des fromages à pâte molle, la charcuterie, et ça a conduit à la mise en place de systèmes de surveillance qui sont reconnus comme étant assez performants au plan mondial, ce qui fait qu'on a une très bonne connaissance de l'épidémiologie de la listériose, des cas incidents, et donc de données cliniques. Alors, les principaux cas, surtout en France, où on contrôle la chaîne alimentaire, je n'entre pas trop dans les détails, c'est un peu hors sujet aujourd'hui, les principaux cas sont des cas sporadiques, c'est-à-dire des cas isolés, dus à l'absorption d'aliments contaminés de façon isolée. Mais vous voyez, comme c'est illustré ici, et ceci découle d'un travail prospectif qui a été rendu possible par la déclaration obligatoire des cas, et vous voyez que la survie après infection est relativement mauvaise, puisque, alors que chez les femmes enceintes, évidemment, il n'y a pas de mortalité maternelle, j'y reviendrai, et c'est principalement des complications fœtales et néonatales dans 95% des cas, donc la grossesse est compliquée dans 95% des cas, mais chez les patients qui ont une infection septicémique ou une infection septicémique et neurologique, eh bien, on a une mortalité franchement élevée, qui traduit non seulement la gravité de l'infection, mais aussi la fragilité du terrain des patients qui développent ce type d'infection, j'y reviendrai également. Alors bien sûr, il y a des épidémies, on en entend de temps en temps parler dans la presse, et si vous regardez la presse, lisez la presse internationale, vous avez peut-être entendu parler de cette immense épidémie en Afrique du Sud, qui compte plus de 1000 cas, et qui se caractérise ici par une accumulation de cas sur plusieurs semaines, des cas qui sont principalement materno-fœtaux, sans doute du fait de l'absence de système de surveillance et notamment de mesures préventives chez les femmes enceintes dans ce pays, et puis aussi des cas chez des patients jeunes, et ceci est probablement en partie dû au fait que de nombreux patients sont infectés par le VIH, infectés par le bacille de la tuberculose, voire co-infectés, et donc ça crée une population immunodéprimée, entre guillemets, qui est un peu différente de nos populations plutôt âgées, en France. Et vous voyez que c'est une infection, c'est une épidémie qui a couvert l'entièreté du pays et l'aliment contaminé, qui était une espèce de saucisson industriel produit en très grande quantité et en plus exporté dans toute l'Afrique, a mis beaucoup de temps à être identifié parce qu'il n'avait pas de système de surveillance. Et ça montre finalement l'intérêt de ces systèmes de surveillance. Là, je prêche un peu pour ma paroisse, puisqu'on s'occupe également du Centre national de référence de l'hystéria, qui coûte de l'argent, comme tous ces centres de référence, mais qui permettent de prévenir des épidémies qui n'ont quasiment plus cours en France pour ce qui concerne l'hystérie, en tout cas. Alors, si on veut essayer maintenant de comprendre le mécanisme de l'infection, il faut commencer par des choses assez simples au laboratoire, et finalement, depuis maintenant plus de 30 ans, il a été observé que l'hystéria, qui est ici colorisée en vert sur cette image de microscopie électronique à balayage, est capable d'entrer dans des cellules dites non phagocytaires professionnelles, comme par exemple des cellules épithéliales humaines en culture. Et ici, vous avez un film accéléré qui vous montre une bactérie qui est en voie d'internalisation dans une de ces cellules. Donc, ce sont des cellules épithéliales, donc ce ne sont pas des phagocytes, et ce sont des cellules humaines. Okay ? Alors, par des observations en microscopie électronique, en microscopie à fluorescence et tout ce qu'ont permis les progrès de l'imagerie, il a été montré que l'hystéria, une fois qu'elle a été internalisée, réside pendant un temps relativement court dans une vacuole de phagocytose et grâce à la molécule dont Alain vient de vous parler, la listériolysine, des pores se forment au niveau de la membrane d'internalisation, ce qui permet à la bactérie de s'en échapper, de se multiplier dans le cytosol, qui est un milieu finalement riche, et de polymériser l'actine cellulaire par le biais d'une molécule de surface de l'hystéria monocytogénèse qu'on appelle ACTA, et qui permet à la bactérie, je vais vous le montrer sur la diapo suivante, de se mouvoir dans le cytosol, et éventuellement d'atteindre la cellule voisine en formant ses protrusions, d'envahir, grâce à cette espèce de cheval de Troie, la cellule voisine. Et ça rend compte d'ailleurs du fait, chose sur laquelle je reviendrai, que les défenses immunitaires qui sont vraiment importantes contre l'hystéria monocytogénèse sont plutôt ceux de l'immunité cellulaire qui vont reconnaître les cellules infectées plutôt que les anticorps dont il a été dit qu'ils pénètrent mal ou très peu dans les cellules. Alors ici, c'est juste pour vous dire ce dont je ne vais pas parler, c'est-à-dire que l'hystéria peut être utilisé comme outil pour comprendre la biologie cellulaire, non pas comme agent infectieux, mais pour comprendre la biologie cellulaire. Vous savez sans doute que de nombreux composés bactériens, toxines, protéines, facteurs de virulence ont été utilisés pour comprendre des phénotypes clés de la cellule, le trafic vacuolaire, etc. Ici, il se trouve que ACTA, cette molécule dont je vous ai parlé, qui permet la motilité des bactéries, bon, le film a été accéléré aussi, hein, mais vous voyez que c'est quand même assez spectaculaire, eh bien, les mécanismes qui permettent à l'hystéria de polymériser l'actine sont finalement assez voisins de ceux qui permettent à la cellule de polymériser l'actine lors de la locomotion, notamment de la différenciation cellulaire, des processus de transformation cellulaire, etc. Donc, en biologie cellulaire, l'hystéria est un outil particulièrement intéressant et donc bien connu des biologistes cellulaires. On verra que c'est aussi un outil bien connu des immunologistes. Alors, si maintenant on s'intéresse aux modalités d'entrée dans les cellules, en fait, l'hystéria est capable d'entrer, comme n'importe quelle bactérie, dans des monocytes, des macrophages, des polynucléaires. Ça, c'est l'action de la cellule phagocytaire professionnelle qui permet l'internalisation de n'importe quelle particule, pour peu qu'elle soit petite, et c'est le cas de l'hystéria. Mais dans des cellules non phagocytaires, comme par exemple des cellules épithéliales, eh bien, il y a des facteurs bactériens de l'hystéria, comme INLA, INLB, qui permettent l'internalisation de l'hystéria. Donc ça a été découvert par Jean-Louis Gaillard il y a maintenant bien longtemps, plus de 20 ans, en screenant une banque de mutants obtenus par transposition, c'est-à-dire qu'on interrompt systématiquement les gènes de l'hystéria et on cherche des mutants qui ne sont plus capables d'entrer dans les cellules épithéliales. Et c'est ainsi qu'on identifie l'opéron INLAB qui code pour deux protéines de surface de l'hystéria monocytogénèse qu'on appelle INLA ou internaline, qui, comme son nom l'indique, est impliquée dans l'internalisation de l'hystéria dans les cellules, et une autre protéine sur laquelle je reviendrai plus tard, qu'on appelle INLB. Vous voyez que ces deux protéines, non seulement ont des motifs d'ancrage à la surface bactérienne, mais ont aussi des motifs répétés dits LRR, ou leucine-rich repeats, qui sont présents aussi sur des cellules, des protéines eucaryotes, comme les TLR par exemple, et qui sont en général impliquées dans des interactions protéines-protéines fortes, ce qui collait assez bien pour des cellules. J'ai mon téléphone qui sonne, donc je vais éteindre ça. Ce qui collait assez bien pour des molécules qui sont impliquées dans une interaction avec la cellule hôte. Alors, il a été montré, il y a pas mal de temps également, que pour ce qui concerne l'entrée dans les cellules et du côté bactérien, INLA est suffisante pour permettre l'entrée. C'est-à-dire que si vous prenez des bactéries non pathogènes, non invasives, et on a une espèce de l'hystéria qui s'appelle l'hystéria innocua, qui n'est absolument pas pathogène et qui n'est pas notamment capable d'entrer dans les cellules épithéliales en culture, si vous transférez le gène INLA dans cette espèce bactérienne, vous le faites exprimer, la protéine est présente à la surface, comme on ne le voit pas bien ici, en ce marquage, cet immunomarquage à l'heure, et bien ces bactéries deviennent invasives. Et encore mieux, si vous prenez des billes de latex de 1 micromètre de diamètre, totalement inertes, qui ne sont pas internalisées, vous coatez l'extérieur, vous recouvrez l'extérieur de ces billes par de l'internaline purifiée, et ces billes sont maintenant internalisées d'une façon spécifique dans les cellules épithéliales humaines en culture. Donc du côté bactérien, INLA est suffisant pour permettre l'entrée. Alors le récepteur d'INLA a été identifié, il y a pas mal de temps également. C'est une molécule très intéressante et élégante qui s'appelle la eucadérine, qui est impliquée dans la formation des jonctions adhérentes. Comme vous le savez, les cellules épithéliales se polarisent. En se polarisant, elles développent des jonctions adhérentes qui permettent la formation des jonctions serrées, et c'est ça qui donne aux cellules épithéliales leur fonction barrière, leur imperméabilité. Et donc la eucadérine, qui interagit in vitro avec INLA, est impliquée dans des interactions homophiliques et calcium-dépendantes qui permettent aux cellules de se joindre, comme vous le voyez ici, et qui sont en contact au plan cytosolique avec le cytosquelette d'actine, ce qui donne de la tension au système et qui permet aux jonctions non seulement d'être solides, mais aussi d'être très dynamiques. Et donc c'est une molécule qui est étudiée évidemment dans les processus développementaux de transformation cellulaire, etc. Je ne détaille pas cet aspect, mais il se trouve que INLA reconnaît la eucadérine. Et donc non seulement elle la reconnaît in vitro, mais si vous prenez des fibroblastes qui n'expriment pas de eucadérine, parce que eucadérine, ça veut dire epithelial cadérine, c'est-à-dire que c'est exclusivement exprimé, enfin très préférentiellement exprimé dans les cellules épithéliales, donc ces cellules n'expriment pas de eucadérine, il n'y a pas d'entrée de bactéries exprimant INLA, vous les transfectez de sorte qu'elles expriment la eucadérine humaine, et il y a une entrée. Donc cette interaction est fonctionnelle, elle permet l'entrée de la bactérie dans la cellule. Et là, nous avons une surprise, c'est que si vous prenez non pas la eucadérine humaine, mais la eucadérine de souris, qui est très voisine en termes de séquence, eh bien, vous n'avez pas du tout d'entrée, ça ne marche pas. Donc évidemment, dans ces cas-là, ce que vous dites, c'est que l'expérience n'a pas marché, mais en fait, elle avait bien marché. Et quand on a regardé précisément ce qui se passait, et qu'on a étudié les différences en termes de séquence entre la eucadérine humaine et la eucadérine de souris, on a pu, par échange de domaines et mutagénèse dirigée, mettre en évidence qu'un seul acide aminé, qui est le 16e de la protéine mature, qui est une proline dans les espèces permissives comme l'espèce humaine, et un acide glutamique chez la souris, est responsable de la spécificité d'espèce de l'interaction. En d'autres termes, si vous changez cette proline en acide glutamique au sein de la eucadérine humaine, ça ne marche plus. Les bactéries ne sont plus capables d'adhérer et d'entrer dans les cellules. Si en revanche, vous humanisez entre guillemets la eucadérine de souris pour ce qui concerne le 16e aminoacide, en remplaçant l'acide glutamique en proline, ça se met à marcher. Et donc là, je voudrais vous dire que cette spécificité d'espèce, ce n'est pas du tout quelque chose de très spécifique, si je puis dire, à l'hystéria monocytogenèse, mais c'est plutôt la règle dans les interactions hôtes pathogènes. De très nombreuses interactions hôtes pathogènes sont spécifiques d'espèces, pour des virus comme le poliovirus, le virus de l'hépatite C, évidemment le virus VIH, le virus de la rougeole, et j'en passe, des bactéries, la toxine diphtérique, hélicobactères, shigelles, etc. Une spécificité d'espèce très forte des pathogènes et des interactions hôtes pathogènes. Alors, cette constatation in vitro nous a amené à deux conclusions, d'abord, enfin deux choses. D'abord, que le modèle murin, la souris, n'était sans doute pas le bon modèle pour étudier le rôle d'INLA, qui interagit avec la eucadérine humaine, mais pas avec la eucadérine de souris, et que des souris humanisées exprimant la eucadérine humaine seraient éventuellement un bon modèle pour étudier l'infection. Donc, c'est ce qui a été fait. Des souris donc, qui expriment la eucadérine humaine au niveau épithélial intestinal ont été générées. En contrôle, ici, vous avez des souris non transgéniques qui n'expriment pas de eucadérine humaine, un anticorps ne les reconnaît pas, et ici, vous avez les souris transgéniques. Et bien, ce qu'on voit, c'est que dans les souris transgéniques, qui expriment donc un récepteur fonctionnel pour INLA, vous avez une mortalité dépendante d'INLA après infection par voie orale, alors que dans les souris sauvages, vous n'avez absolument pas de mortalité après infection par voie orale. Donc, non seulement, ici, vous acquérez dans les souris transgéniques une mortalité par voie orale, mais elle est internaline dépendante et eucadérine dépendante, comme je vous l'ai dit. Alors, si on regarde d'un peu plus près le processus infectieux, ici, vous avez les souris non transgéniques, vous voyez qu'il ne se passe pas grand-chose. Dans les souris transgéniques, et avec les bactéries qui expriment INLA, vous avez une invasion du tissu intestinal et une dissémination de l'infection, ici, dans les ganglions mésentériques, mais on aurait la même chose au niveau du foie et de la rate, une infection systémique. Et ceci corrèle au plan histologique avec une traversée des bactéries de l'épithélium intestinal. Alors vous voyez les flèches en rouge et peut-être au bout une bactérie rouge qui a été marquée avec un anticorps. Ensuite, à un temps plus tardif, des bactéries qui se répliquent dans ce qu'on appelle la lamina propria, le tissu conjonctif sous l'épithélium des villosités intestinales. Un peu de réaction inflammatoire, une dissémination, et ceci n'est jamais observé avec le mutant INLA ou avec des souris non transgéniques. Donc une interaction INLA-eucadérine qui permet la traversée de la barrière épithéliale intestinale, prérequis pour la dissémination de l'infection chez la souris humanisée. J'en profite juste pour vous dire qu'on discute souvent de savoir est-ce que la souris c'est un bon modèle, finalement c'est très différent de l'homme, mais quand même il y a des points communs, donc peut-être que c'est intéressant, etc. Juste pour vous dire, avec ces résultats, que la question n'est pas tellement de savoir si on est proche ou lointain de la souris, mais soit le phénotype est comparable, et à ce moment-là, on peut étudier, soit c'est différent, et on peut exploiter cette différence pour essayer d'en comprendre les bases moléculaires, et par exemple, d'humaniser les souris. C'est fait dans de nombreux domaines, pour les interactions de pathogènes, pour la compréhension du système immunitaire, etc. Je pense que c'est intéressant d'avoir ça en tête, plutôt que de se poser la question de savoir si le modèle murin est un bon ou un mauvais modèle, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, je vous ai parlé d'INLA. Il y a aussi donc une autre protéine de surface de l'hystéria monocytogenèse, dont j'ai dit un mot, qui s'appelle INLB. Et j'y reviendrai plus tard, mais pour ce qui concerne la traversée de la barrière épithéliale intestinale, il n'y a pas de rôle d'INLB. Pourtant, INLB permet l'entrée de l'hystéria dans un très grand nombre de types cellulaires in vitro, mais pour ce qui concerne la traversée de la barrière intestinale in vivo, aucun effet de la mutation INLB, de la délétion d'INLB. Donc, seule INLA est suffisante est nécessaire et suffisante pour permettre la traversée de la barrière intestinale. Alors, pour ceux d'entre vous qui sont observateurs ou qui connaissent la biologie cellulaire, vous avez dû vous dire, mais c'est quand même bizarre, cette eucadérine, elle est ici, les bactéries sont là, et entre les deux, il y a la jonction la plus serrée qu'on puisse faire. Comment se fait-il que l'hystéria traverserait la barrière intestinale? Donc, évidemment, ça nous a interpellés. Mais comme on avait ce résultat génétique assez clair, enfin même très clair, que INLA et la eucadérine étaient toutes les deux impliquées dans la phase intestinale de l'infection, on s'est dit qu'il doit bien y avoir quelque chose qui se passe. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait essayer de détecter avec des méthodes d'imagerie un peu résolutives où était le récepteur et si l'hystéria pouvait y accéder. Donc pour ça, vous pouvez utiliser des méthodes de microscopie confocale, biphotonique, enfin avancées, qui permettent surtout de garder l'intégrité du tissu, de ne pas faire de coupe comme on le fait en histologie classique, mais d'imager l'entièreté du tissu et de, grâce au laser, pénétrer à l'intérieur du tissu sans l'endommager. Et donc si vous faites ceci après avoir perméabilisé les cellules, eh bien, vous allez mettre en évidence l'aspect complètement typique qu'on appelle en rayon de miel des jonctions adhérentes, ici en verte et ici en blanc, où vous voyez typiquement les jonctions adhérentes permettent la connexion entre les cellules épithéliales sur une villosité intestinale. Donc ça, aucune surprise. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est exactement la même chose, mais sans perméabiliser, pour essayer de voir s'il n'y aurait pas de la E-cadérine quelque part accessible à l'extérieur pour l'hystéria, qu'elle puisse reconnaître pour traverser la barrière intestinale. Donc si je vous en parle, c'est que ça a marché. Donc je ne vais pas vous passer tous les détails, vous donner tous les détails de ces expériences, mais ce qui a été vraiment frappant, c'est de remarquer ici en vert, autour de cellules particulières qu'on appelle les cellules caliciformes ou cellules à mucus, ou goblet cells en anglais, eh bien vous voyez qu'il y a un marquage vert en blanc et le mucus qui est en voie d'expulsion à la surface de l'épithélium. Et vous voyez qu'ici, il y a un rond vert qui semble montrer que de la E-cadérine est accessible à ce niveau-là. Et effectivement, c'est une zone où les jonctions serrées sont un peu plus lâches et qui permettent finalement l'accès à la E-cadérine qui est un peu délocalisée. J'entre pas trop dans les détails, on n'a pas vraiment le temps. Et ce qui était intéressant ici, c'est de non seulement mettre en évidence l'accessibilité du récepteur, mais la présence de bactéries, que vous voyez peut-être ici en rouge, au contact de cellules à mucus. Vous voyez ici une bactérie qui est au contact, ici une bactérie qui a traversé ou qui est en voie de traverser une cellule à mucus, et ici une bactérie qui a traversé. Et si on quantifie tout ça, c'est purement INLA dépendant, c'est au niveau des cellules à mucus. Et notre surprise a été non seulement que c'était un processus très rapide, mais surtout que c'était LLO et ACTA indépendant, suggérant que l'hystéria n'avait pas besoin de quitter la vacuole, pas besoin de se mouvoir dans la cellule pour être pour traverser la cellule de façon très rapide. Et d'ailleurs, si vous prenez cette bactérie dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Listeria inocua, vous lui faites exprimer juste INLA, eh bien ça suffit à lui permettre de traverser la cellule, ce qui montre bien qu'il n'y a pas besoin de la listériolysine, il n'y a pas besoin d'ACTA. Alors ceci était un peu surprenant, et donc on a été un peu plus loin pour essayer de comprendre, et on s'est dit, si l'hystéria reste dans une vacuole, c'est donc que la vacuole elle-même est mobilisée, et donc on s'attend à ce que les microtubules qui sont impliqués, c'est la partie du cytosquelette, comme vous le savez, qui est impliquée dans la mobilité, dans la mobilisation des vésicules à l'intérieur de la cellule, que les microtubules soient impliqués. Et effectivement, si on utilise des drogues qui interfèrent avec la dynamique des microtubules, comme le nocodazole, ou la colchicine, eh bien on bloque les cellules, je n'entre pas dans les détails, mais on bloque les cellules, les bactéries dans les cellules plus exactement, elles ne sont plus transloquées complètement. Ce qui suggère que les microtubules qui ne sont pas impliqués dans l'internalisation de l'hystéria sont impliqués dans le transfert de l'hystéria à travers l'épithélium. Donc ça, c'était un résultat qui était bien cohérent avec l'absence de contribution de la listériolysine et d'ACTA. Et d'autre part, là non plus je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a moyen d'interférer avec ce qu'on appelle la machinerie d'exocytose si une vésicule arrive au pôle basolatéral de la cellule pour que son contenu puisse être relargué dans la lamina propria. Il faut qu'il y ait une fusion membranaire, ce qu'on appelle un processus d'exocytose. Et bien, si on interfère avec l'exocytose, avec ce peptide ici, et bien, on bloque la translocation. Donc deux éléments, la contribution des microtubules et la contribution de l'appareil d'exocytose qui sont en faveur de ce que l'hystéria traverserait l'épithélium in vivo par transcytose, ce qui était franchement assez peu attendu dans la mesure où dans tous les livres où vous regarderez quel est le devenir de l'hystéria dans les cellules épithéliales en culture, et bien vous verrez qu'elle quitte la vacuole, qu'elle fait toute cette polymérisation d'actine, et nous ce qu'on a vu c'est ça. Alors évidemment, dans ce genre de situation, on peut dire, oui, mais peut-être que ce n'est pas tout à fait vrai et que quand même ce qu'il y a dans les livres, c'est plus vrai que ces nouveaux résultats. Et donc, je vais vous dire ce qu'on essaie de faire pour essayer d'avancer et de documenter ces résultats et de décrypter les mécanismes sous-jacents. Avant de faire cela, je voudrais bien être clair, ce n'est pas du tout pour dire que la listériolysine et ACTA ne servent à rien, parce que quelquefois, par raccourci, on peut le comprendre. Ce sont deux facteurs de virulence absolument fondamentaux de l'hystéria monostogénèse. En d'autres termes, vous prenez un mutant pour la listériolysine ou un mutant pour ACTA, et vous faites une infection soit par voie intraveineuse chez la souris, soit par voie orale, et vous verrez que l'infection systémique est très clairement déficiente. Et ceci est dû au fait que ces deux molécules, la listériolysine et ACTA, permettent d'une part l'échappement de la vacuole dans les macrophages et les monocytes qui sont bactéricides. Cette vacuole est bactéricide, donc s'en échapper permet à la bactérie de survivre et de se multiplier, et ACTA permet d'infecter les cellules voisines. Donc ici, ça a été montré par d'autres personnes que nous il y a bien longtemps, mais ici, on a utilisé avec un collègue de Pasteur, Jean-Pierre Levrault, le modèle dit zébrafiche, qui a l'avantage d'être transparent. Donc vous avez ici une imagerie faite in vivo, mais où vous voyez les bactéries en vert dans une seconde ici, sur une cellule qui a un phénotype de macrophage, et on a pu montrer que la listériolysine et ACTA étaient bien impliquées dans la virulence. D'accord ? Donc ces deux molécules sont principalement impliquées dans la phase de l'infection qui implique les phagocytes professionnels, qu'ils soient monocytes et macrophages. Alors juste pour, puisqu'il y a quand même un petit rapport avec l'immunologie dans le cours d'aujourd'hui, pour vous dire qu'une fois que l'hystéria a échappé de cette vacuole qui pourrait la tuer, elle n'a pas du tout gagné la course, puisque les antigènes bactériens, en l'occurrence, vont être exprimés à la surface des cellules infectées, et il a été très clairement montré par McAnes notamment, et d'autres depuis, que l'immunité adaptative, et notamment les cellules T, cytotoxiques CD8, était absolument très efficace dans leur capacité à tuer ces cellules infectées et à permettre une clearance complète des cellules infectées chez l'hôte. Donc tout ça veut dire que chez un hôte immunocompétent, notamment pour les fonctions T cytotoxiques, l'infection ne va pas se propager de façon infinie et va finalement pouvoir être contrôlée. Elle est très immunisante d'autre part, et ceci est dû au fait que les cellules infectées, monocytes ou macrophages, expriment à leur surface des peptides, notamment dérivés de la listériolysine, qui sont reconnus et qui permettent la destruction des cellules infectées, la tuerie des cellules infectées. Alors, oui, ceci illustre que l'hystéria, en fait, a été utilisée très abondamment et continue à être utilisée très abondamment par les immunologistes qui travaillent notamment sur les aspects d'immunité cellulaire adaptative, puisque c'est très simple à utiliser et c'est très carré, entre guillemets. Et en plus, il y a un peptide immunodominant, enfin une protéine immunodominante qui est la listériolysine. Et accessoirement, ça illustre aussi que ce soit pour la vaccinologie vis-à-vis de Mycobacterium tuberculosis, voire dans les approches de vaccinologie antitumorale, utiliser la listériolysine ou l'hystéria exprimant la listériolysine comme système pour présenter les antigènes est quelque chose de très intéressant. Alors maintenant, revenons sur la partie barrière intestinale. Je vous ai dit que cette observation était finalement inattendue. Et ce qu'on veut maintenant, c'est comprendre de façon détaillée les mécanismes de la translocation. Et il se trouve que l'hystéria ici, que vous voyez en vert, suit le trajet que suit la eucadérine quand elle est constamment recyclée du pôle apical de la cellule vers la région basolatérale. Et donc, il y a toute une voie de signalisation de recyclage, entre guillemets, de la eucadérine que semble suivre l'hystéria. Une autre hypothèse, c'est que l'hystéria, effectivement, suit simplement le recyclage des vésicules de eucadérine qui sont exclues de la zone apicale pour être relarguées à la zone basolatérale. Alors, ça, c'est notre hypothèse de travail. Comment est-ce qu'on essaie d'avancer pour essayer de la documenter? Alors, on a essayé tout type de modèles cellulaires plus ou moins polarisés, etc. Pour faire simple, ça ne marche pas. Et donc, on a été obligé de se reporter sur des modèles qui sont très intéressants, un petit peu difficiles à travailler, et ça nous prend beaucoup de temps, qui sont les organoïdes. Donc vous avez sans doute entendu parler de ces systèmes expérimentaux qui, à partir de cellules souches, permettent de différencier ex vivo des mini-organes, ici des mini-guts ou des mini-intestins. C'est une technologie qui, initialement, a été développée par Hans Clevers, où, en cultivant des cellules souches, eh bien, on peut développer de microsphères ici, et qui ont l'intérêt, bon, ici elle n'est pas très belle, mais quand on fait un immunomarquage, et notamment qu'on détecte les différents sous-types de cellules au niveau intestinal, on voit en blanc, vous allez voir sur la coupe ici, les cellules qui produisent le mucus. Donc on a bien un système expérimental où on a la juxtaposition de cellules entérocytaires classiques et de cellules à mucus qui nous intéressent dans ce cas particulier, puisqu'on veut essayer de comprendre les mécanismes d'internalisation de l'hystéria dans ces cellules et de transit au travers de ces cellules. Alors l'intérêt de ce système expérimental, c'est que non seulement on peut produire des organoïdes, on peut les garder, alors c'est plus simple sur le papier qu'en réalité, ça s'infecte facilement, c'est un peu compliqué, et surtout on peut les transduire par exemple avec un vecteur rétroviral, pour leur faire exprimer une protéine qui a une action dominante négative, pour down-réguler l'expression d'un gène, etc. Donc c'est quelque chose finalement qui permet, donc ici vous avez l'expression de la GFP, une protéine fluorescente, ce qui fait qu'on peut utiliser les outils de la biologie cellulaire la plus précise dans un système plus pertinent qu'une lignée cellulaire immortalisée qui pose quelques problèmes, notamment dans sa polarisation, pour ce qui concerne l'accessibilité de la eucadérine. Alors l'autre chose, si on veut utiliser ce système expérimental, c'est qu'il nous faut micro-injecter l'hystéria à l'intérieur de ces organoïdes intestinaux, donc c'est ce qu'on fait ici. Ici, les bactéries sont fluorescentes en verte, elles expriment la GFP, Green Fluorescent Protein, et vous avez donc ici un organoïde qui a été micro-injecté, en rouge, les cellules à mucus, et en vert, les bactéries qui sont prêtes éventuellement à traverser l'épithélium. Donc si je vous en parle, c'est que ça marche. Donc là, on a deux exemples. Un exemple ici d'une cellule à mucus, ici le mucus est en rouge, avec une bactérie qui est en voie de traverser en fait, d'ici à ici, c'est-à-dire de la lumière vers ce qui serait la lamina propria. Les différents marquages montrent que c'est bien spécifique. Et puis ici, vous avez un autre exemple d'une bactérie qui a traversé, elle est passée d'ici à ici, et donc le système marche. Alors si le système marche, ce qu'il nous faut maintenant, c'est quantifier les choses et puis essayer de voir quel est l'effet d'une ablation de telle ou telle molécule qui peut être impliquée dans l'internalisation, le trafic vésiculaire comme les protéines RAB, le transit comme les moteurs tels que les kinésines, l'exocytose, etc. Donc c'est quelque chose qui est en cours. Et je pense que ces organoïdes qui sont un peu utilisés aujourd'hui, entre guillemets, à toutes les sauces, sont vraiment intéressants pour étudier les interactions autres pathogènes. C'est clair que si on peut s'en passer, c'est pas plus mal, parce que c'est quand même un petit peu difficile à utiliser au laboratoire et ça prend beaucoup de temps. Alors, ayant développé le modèle transgénique dont je vous ai parlé, on avait donc, outre la possibilité d'étudier les mécanismes de traversée de la barrière, on peut aussi étudier les mécanismes de réponse de l'hôte, d'accord, et notamment au niveau intestinal, ce qui par définition n'avait pas été fait avant, puisqu'il n'y avait pas de traversée active. Et c'est une diapo un peu chargée, mais dont je vais pas du tout, pour laquelle je ne vais pas du tout entrer dans les détails. La surprise a été que quand on a pris des souris qu'on a infectées, soit par les bactéries sauvages, soit par le mutant INLA, voire le mutant INLB, eh bien, en termes de transcrit up ou down régulé, on n'a vu aucune différence. C'est-à-dire que le tissu intestinal répond à l'infection par l'hystéria monocytogénèse, mais qu'elle exprime ou non les molécules d'invasion, INLA ou INLB, ça ne fait pas de différence. Et ça, c'était franchement pas du tout attendu. On pensait que les bactéries dans la lamina propria produiraient une réponse inflammatoire qui serait détectable. En fait, ce qui est très clairement détectable, c'est l'effet de la listériolysine, qui est codée par ce gène HLY pour la listériolysine. Ce gène est responsable de la quasi-totalité des transcrits qui sont up ou down régulés au niveau intestinal et en fait ne s'expriment qu'au niveau des plaques de Peyer qui sont les organes lymphoïdes associés aux muqueuses et les bactéries ici induisent une réponse inflammatoire relativement modérée. En revanche, au niveau des villosités intestinales où INLA permet la traversée de la barrière intestinale, il n'y a pas de réponse détectable médiée par cette internaline. Donc c'était franchement une surprise, et en fait, ces résultats, on les a acquis il y a bien longtemps, avant qu'on ait découvert que les cellules à mucus étaient une porte d'entrée pour l'hystéria. Et on pense que le fait que, je vais y venir sur la diapositive suivante, les cellules à mucus soient impliquées est certainement pas innocent, mais une autre chose qui nous semble importante, c'est que si l'hystéria traverse l'épithélium au sein d'une vacuole, ben ça lui permet sans doute d'échapper à la détection des senseurs cytosoliques, tels que des molécules NLR, par exemple, qui sont impliqués dans la réponse inflammatoire immédiate à un challenge microbien. Si la bactérie traverse très rapidement et qui plus est dans une vacuole, possiblement ça explique l'absence de réponse détectable. Mais chose encore plus intéressante sur laquelle on travaille actuellement, ce sont les cellules à mucus, donc les goblet cells ou cellules caliciformes. C'est des cellules qui sont connues depuis bien longtemps, qui fabriquent des tonnes de mucus et elles étaient jusqu'à récemment considérées comme étant juste spécialisées à faire ça. En fait, si on retourne dans la littérature ancienne, on s'aperçoit qu'il avait été décrit que ça pouvait être un site de translocation des immunoglobulines maternelles chez les enfants qui étaient allaités. Et il y a effectivement un réseau de microtubules à la périphérie de ces cellules, dans la zone où il n'y a pas de mucus, qui pourraient être impliquées dans ce transfert vésiculaire d'immunoglobulines. Mais de façon vraiment intéressante, a été décrit maintenant, il y a quelques années, que ces cellules à mucus pouvaient être un site de transfert d'antigènes luminaux, que ce soit des antigènes alimentaires ou des antigènes dérivés de la flore commensale, et que le fait de passer, c'est un peu mystérieux, mais que le fait de passer par les cellules à mucus corrélait avec une tolérisation, ou en tout cas une non-réponse vis-à-vis de ces antigènes. Et il a même été décrit que le mucus lui-même avait une action immunomodulatrice négative. D'accord ? Donc le mucus, bien sûr, il a une action antibactérienne de protection contre l'invasion des micro-organismes de la lumière par une action, je dirais, purement structurale, de faire ce qu'on appelle la barrière de mucus. Mais il semble qu'au-delà de cette fonction un peu triviale, le mucus puisse être impliqué dans la régulation des réponses immunes, et notamment des réponses innées, et également possiblement adaptatives. Donc nous, ce que nous essayons de faire actuellement, c'est d'essayer de comprendre ce en quoi le fait que l'hystéria traverse par ces cellules à mucus puisse expliquer le fait que INLA n'induit pas de réponse. Donc on pense que l'hystéria, d'une façon, ça peut être une explication du titre, d'une façon finalement assez inattendue et très clairement en grand contraste avec Schigel, quand elle est dans la lamina propria des villosités, est très peu détectée et que ça doit favoriser non seulement la survie des bactéries, leur multiplication et leur dissémination, et que ça explique sans doute également le fait qu'il y a très très peu de symptômes qui sont associés avec la listériose dans sa phase intestinale. Et d'ailleurs, on va venir maintenant à la phase placentaire. Chez les femmes enceintes qui transmettent l'hystéria à leur bébé, eh bien, quand on les interroge, très peu décrivent des signes intestinaux. Or, la bactérie est bien passée par là quelques jours avant, quelques heures avant. Alors, donc, j'ai parlé abondamment, on aurait pu en parler plus longtemps, mais on n'a sans doute pas le temps, de ce qui se passe entre l'hystéria et la barrière intestinale. Qu'en est-il de la barrière placentaire ? Donc, comme je vous l'ai dit, dans 95% des grossesses où l'hystéria est présente, il y a une complication fœtale ou néonatale, donc c'est clairement un problème. Évidemment, on était intéressé à essayer de comprendre le mécanisme. Alors, tout ceci est parti d'une observation assez inattendue. C'est que je vous ai parlé de cette internaline qui est exposée à la surface de l'hystéria monocytogenèse, qui interagit avec la E-cadherine, et ceci permet l'entrée. Tout ça marche très bien. Le problème, c'est que des souches de l'hystéria monocytogenèse, en tout cas, certaines des souches qu'on avait au laboratoire avaient une troncation dans la protéine INLA qui faisait qu'elle n'était plus ancrée à la surface des bactéries et que donc elle ne pouvait plus remplir sa fonction de ligand de ce récepteur cellulaire et donc elles n'étaient pas capables d'entrer dans des cellules exprimant la E-cadherine. Donc tout ça, évidemment, nous a un peu interpellés. On s'est dit que peut-être ces résultats que nous avions décrits n'avaient pas de grande pertinence clinique et on s'est dit en tout cas qu'on avait la possibilité maintenant à ce stade, puisqu'il y a des souches positives pour INLA et des souches négatives, d'essayer de voir s'il y avait une association entre ce qui se passe au plan clinique et l'expression d'INLA. Donc c'est ici qu'on peut tirer parti du fait qu'à l'Institut Pasteur, il y a ce centre de référence pour l'hystéria, où toutes les souches isolées au plan clinique et dans les aliments dans le cadre de la surveillance nationale sont envoyés pour caractérisation. Et donc, entre autres choses, ce qu'on peut faire, c'est essayer de regarder la structure du gène INLA, l'expression de la protéine, pour essayer de voir ce qu'il en est, et notamment entre les souches d'origine clinique et les souches d'origine alimentaire. Bon, ces résultats ont été publiés il y a longtemps, je ne vais pas entrer trop dans les détails. Je crois que vous voyez qu'ici, 96% des souches ont une internaline fonctionnelle. Ici, seulement 65% des souches. Elles sont représentatives des deux groupes et la différence est très fortement significative, ce qui suggère qu'il y a bien un rôle ouf de cette internaline dans l'infection humaine à l'hystéria monocytogenèse. Alors si maintenant, parmi les souches cliniques, on s'intéresse à leur origine clinique, certaines ont été issues de patients qui n'ont développé qu'une bactériémie, c'est-à-dire des bactéries qui ont traversé la barrière intestinale et qui étaient présentes dans le sang. Certaines étaient isolées d'infections du système nerveux central et enfin d'autres étaient isolées d'infections fœtoplacentaires. Donc si on regarde les souches d'origine alimentaire et les souches isolées de cas de bactériémie, on voit que la différence est là aussi extrêmement significative, ce qui est un moyen de valider de façon indépendante et a posteriori le modèle transgénique dont je vous ai parlé et qui suggère que l'internaline joue un rôle dans la traversée de la barrière intestinale. Mais beaucoup plus intéressant, et finalement c'est ça qui nous a fait nous intéresser à cette infection fœtoplacentaire, c'est qu'on s'est rendu compte que pour ce qui concernait les cas d'infection materno-fœtale, il n'y avait aucune souche tronquée qui était impliquée, suggérant fortement que l'internaline puisse être impliquée dans la traversée de la barrière placentaire. Et vous voyez ici d'ailleurs qu'il y a une différence significative entre les souches responsables de bactériémie et celles qui sont capables de traverser le placenta. Donc si on a ce résultat pour INLA, on s'attend à ce que le récepteur, la eucadérine dont je vous ai parlé, soit exprimé à l'interface entre la mère et le bébé. Donc c'est le cas de l'interface placentaire entre ici le sang maternel et le sang fœtal. Vous avez ce tissu épithélial qu'on appelle syncytiotrophoblaste qui dérive du tissu cytotrophoblastique qui joue le rôle de cellules souches, et ces cellules d'origine épithéliale expriment la eucadérine. Et pour aller vite, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a de la eucadérine accessible à l'interface, donc le récepteur est bien présent et peut a priori être reconnu par l'hystéria. Donc on a pu le documenter en mettant en évidence, en prenant l'avantage du placenta, c'est que c'est un tissu humain avec lequel il est relativement facile de travailler parce qu'il n'est pas utilisé à autre chose, a priori, une fois que l'accouchement a eu lieu. Donc après, notamment des accouchements par césarienne, on peut récupérer du placenta, purifier des cellules et les infecter au laboratoire. Et vous voyez ici, la eucadérine a été marquée en vert. Vous avez ces cellules multinucléées qu'on appelle le syncytiotrophoblaste, des bactéries en rouge qui interagissent avec ces cellules, qui recrutent le récepteur, et je ne vous montre pas la quantification, les bactéries rentrent très bien dans ces cellules. Maintenant, si vous prenez une approche un peu plus gore, donc cette photo n'est pas très appétissante, mais c'est du placenta tout propre issu d'une césarienne, et vous pouvez micro-disséquer ce qu'on appelle des explants placentaires et les garder dans un système expérimental, dans une étuve, et pouvoir les infecter ex vivo ensuite. Et donc ce que vous pouvez regarder, c'est ce qui va se passer en termes d'infection avec l'hystéria monocytogenes. Alors ici, vous ne voyez pas bien la coloration de Gram, mais ici, peut-être en rouge, vous voyez des bactéries qui interagissent avec la barrière villositaire placentaire. Et ce que vous voyez quelques temps plus tard, c'est le développement de ces foyers infectieux qui ont exactement la même morphologie que les lésions que l'hystéria induit dans des placentas de femmes qui ont développé une hystériose fœtoplacentaire et transmis l'infection à leur bébé. Donc, très clairement, ce système expérimental permet de reproduire les lésions histologiques qu'on voit au cours de l'infection humaine. Et cette lésion, elle est dépendante de l'internaline. C'est-à-dire que si vous prenez un mutant qui n'exprime pas d'internaline, cette lésion ne se produit pas. On peut quantifier tout ça, je ne détaille pas trop. Alors, évidemment, ces données cellulaires et avec des explants humains, ils essaient de vous montrer que l'internaline joue un rôle, mais c'est toujours bien d'avoir un modèle animal. À l'époque où ces expériences ont été faites, on n'avait pas de modèle animal, puisque le modèle animal qu'on avait généré, c'était ce qu'on appelle une souris transgénique qui exprimait la eucadérine humaine uniquement au niveau épithélial intestinal et pas au niveau placentaire. Donc ce qu'on a fait depuis, et maintenant c'est devenu très facile avec la technologie CRISPR-Cas9 dont vous avez sûrement entendu parler, c'est de faire ce qu'on appelle un knock-in, c'est-à-dire de modifier le gène de la eucadérine de souris pour faire en sorte qu'en position 16, il n'y ait non plus un acide glutamique, mais une proline. Donc ces souris ont été obtenues, on a d'abord testé des cellules primaires de ces souris et montré que quand la eucadérine est mutée, humanisée et qu'il y a de l'internaline, eh bien, dans les cellules in vitro, il y a bien un recrutement du récepteur et une internalisation, donc le système marche. Et surtout ensuite, in vivo, on a pu montrer, en regardant l'infection au niveau placentaire et fœtal, dans ces souris transgéniques, donc ici les résultats sont exprimés en ce qu'on appelle index de compétition, c'est-à-dire qu'on co-infecte avec les bactéries sauvages et avec les bactéries mutantes, et on voit qui a gagné à la fin. Vous voyez qu'il y a plus de bactéries sauvages que de mutantes, ce qui implique qu'il y a bien un rôle d'INLA dans l'infection placentaire et fœtale, alors qu'il n'y en a pas au niveau maternel, ce qui aurait évidemment pu biaiser les résultats. Alors, ce que ceci illustre, c'est qu'il y a des points communs, évidemment des points de différence évidents, mais des points communs entre la barrière épithéliale intestinale et la barrière placentaire, et que le récepteur eucadérine, qui est exprimé à ces deux niveaux, permet à l'hystéria, exprimant INLA, d'envahir ces tissus, de traverser ces barrières. Il se trouve qu'il y a une différence assez marquée, dont je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant, qui est que, alors que INLB ne joue aucun rôle dans la traversée de la barrière épithéliale intestinale, il est absolument critique pour la traversée de la barrière placentaire. Donc ça a été un problème assez difficile à résoudre et qui a fait l'objet d'ailleurs de pas mal de controverses dans la littérature que je vais vous passer. Mais on a compris maintenant ce qui se passait. En fait, INLB a pour récepteur MET, qui est le récepteur pour le facteur de croissance des hépatocytes, HGF, et l'interaction entre INLB et MET stimule la PI3 kinase. Il a été montré de longue date, je ne vais pas détailler, que si vous bloquez l'activité PI3 kinase, vous bloquez l'internalisation de l'hystéria, quelle qu'en soit l'origine, notamment l'entrée INLA dépendante requiert une activité PI3 kinase. D'accord ? Ce qui tombe assez bien, c'est qu'il y a une activité PI3 kinase constitutive au niveau des cellules à mucus, des goblet cells, qui sont les sites de translocation de l'hystéria au niveau de la barrière intestinale. Il se trouve que la PI3 kinase, qui est une enzyme qui est impliquée dans la régulation de très nombreuses voies cellulaires, de différenciation, de survie, de réponse immune, etc., est constitutivement active au niveau des cellules à mucus, puisque pour fabriquer du mucus, il y a besoin de cette activité PI3 kinase. Accessoirement, d'ailleurs, l'activité PI3 kinase peut déstabiliser les jonctions, et il est possible que ce soit la raison pour laquelle les cellules à mucus aient cette E-cadérine accessible. Mais je n'entre pas ici dans les détails. Donc toujours est-il qu'il y a une activité PI3 kinase constitutive, celle-ci est nécessaire à l'entrée, INLA interagit avec la E-cadérine, et l'entrée a lieu. D'accord ? Il n'y a pas besoin d'INLB parce que INLB stimulerait la PI3 kinase, mais le bouton est déjà allumé, la lumière est déjà on, il n'y a pas besoin d'en mettre plus, ça ne sert à rien. En revanche, au niveau placentaire, il n'y a pas d'activité PI3 kinase constitutive. Et ça, ça traduit une différence entre la barrière placentaire et la barrière intestinale. Clairement, les physiologies sont différentes. Il n'est pas clair de savoir pourquoi il n'y a pas d'activité PI3 kinase constitutive, mais c'est comme ça. Et donc, ce que fait INLB, c'est de stimuler cette activité PI3 kinase de sorte que l'internalisation puisse avoir lieu. Et donc, INLA ne marche que si INLB est présent. D'accord ? Donc, ceci vous illustre un point commun évident entre la barrière placentaire et la barrière intestinale, mais aussi des différences et, dont la signification physiologique reste à explorer. Et ça illustre bien qu'un pathogène peut permettre de mieux comprendre la biologie des barrières, comme ici l'intestin ou le placenta. Alors, je vais finir maintenant en vous parlant de finalement ce qui est le plus spectaculaire pour ce qui concerne l'infection à l'hystéria monocytogénèse, qui est l'infection neuro-méningée, qui est associée à cette mortalité très élevée. Comme vous l'avez vu sur les données épidémiologiques au tout début, c'est plus difficile de traverser la barrière hémato-encéphalique que la barrière placentaire, puisque aucune des femmes enceintes ne meurt, et ce que je peux vous dire, c'est qu'aucune des femmes enceintes ne développe de l'hystériose neuro-méningée. Donc très clairement, le mécanisme de traversée semble être différent, semble être moins efficace, et c'est sans doute la raison pour laquelle on a eu jusqu'à ce jour des difficultés à bien le comprendre. Il faut dire que d'une façon générale, les mécanismes par lesquels les pathogènes atteignent le système nerveux central sont assez mal connus. Bon, il y a beaucoup de modèles expérimentaux et de résultats dans la littérature, mais des choses vraiment claires et complètement consensuelles, pas tant que ça, souvent parce que la traversée se fait de façon par différents mécanismes associés, et donc l'un peut remplacer l'autre quand il est absent. Et d'autre part, c'est souvent entre guillemets clonal, c'est-à-dire qu'il y a très peu de traversée et beaucoup d'amplification après, ce qui fait que le mécanisme de traversée lui-même est difficile à décrypter. Bon, ça, ce sont des excuses pour essayer d'expliquer pourquoi on a du mal. C'est sûr que quand on a travaillé sur la barrière intestinale et placentaire, on se dit que la barrière hémato-encéphalique, finalement, c'est un peu pareil, pas tout à fait quand même. Mais enfin, bon, il y a une barrière épithéliale au niveau entre le sang et le liquide céphalorachidien. La barrière est franchement épithéliale puisque les vaisseaux qui parcourent les plexus choroïdes ont des trous, entre guillemets, hein, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un endothélium fenêtré, et vous avez donc une barrière épithéliale. Donc ça serait entre le sang et le liquide céphalorachidien, et puis vous avez les cellules endothéliales qui forment la barrière hémato-encéphalique sensu stricto, au contact des astrocytes qui forment des jonctions très serrées, mais il n'y a pas de jonction adhérente, c'est quand même très, très notoirement différent. Et toujours est-il, pour faire court, si on regarde dans des modèles in vitro la contribution d'INLA et d'INLB, on peut éventuellement la voir, et ça montre la limite de ces modèles, parce qu'in vivo, en fait, ce n'est pas clair du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de phénotype franchement associé. Pour ce qui concerne, en tout cas, l'adhésion et l'internalisation dans ces cellules de barrière d'INLA et d'INLB. Alors, on était un peu bloqué puisque ça ne marchait pas bien et on ne savait pas trop comment faire. Et puis, bon, c'était finalement, d'une certaine manière, assez intéressant que ce ne soit pas toujours la même chose. Donc, on a essayé de creuser un peu la question et de jouer avec le système. Et une chose assez évidente qu'on a vue, c'est que si vous prenez un animal non immunodéprimé et que vous l'infectez par voie systémique, bien vous allez avoir une infection dans le cerveau, mais qui va être relativement peu intense et surtout qui va être complètement éliminée, contrôlée. L'animal va survivre et l'infection va être éliminée. Si en revanche vous utilisez une immunosuppression, par exemple la cyclosporine qui, entre autres choses, déprime les fonctions T, et bien là, vous avez le développement d'une neurolystériose. Je vous passe les détails, des signes cliniques, d'hémiplégie, etc. chez les animaux infectés, et surtout une infection qui se maintient et qui se développe. Donc clairement, du côté de l'hôte, et j'y reviendrai à la toute fin, le statut immunitaire a un rôle clé. Et les patients qui développent des neurolystérioses sont principalement des patients qui ont un traitement immunosuppresseur, qui ont des comorbidités associées avec des dysfonctions de l'immunité cellulaire, diabète, cirrhose, etc. Et d'ailleurs, précisément, les mécanismes moléculaires en jeu ne sont pas forcément connus, et c'est sûrement quelque chose d'intéressant à travailler. Vous voyez que du côté de l'hôte, il y a pas mal de choses à faire, mais finalement, des choses assez évidentes. On déprime les fonctions T. Sans doute les monocytes infectés survivent plus longtemps et ça permet une invasion du système nerveux central. Mais on s'est dit que peut-être il y avait aussi des choses à creuser du côté bactérien et c'est ce par quoi je vais finir. Parce que je vous ai parlé de Listeria monocytogenes, mais je ne vous ai pas dit de quelle souche je vous ai parlé. Je vous ai parlé d'une souche de référence qui est utilisée dans le monde entier. Et je ne vous ai pas parlé de la biodiversité de Listeria monocytogenes. En fait, si on regarde par une technique, par exemple, de multi-locus sequence typing, c'est-à-dire qu'on séquence quelques gènes, en l'occurrence 7, on peut aussi aujourd'hui, et j'y viendrai à toute fin, séquencer le génome entier, on voit bien sûr qu'il y a une biodiversité de l'espèce Listeria monocytogenes. La biodiversité, c'est la règle. Et donc, on a certains complexes clonaux, 1, 2, 4, 6, 150, etc., qui forment ce qu'on appelle les lignées. Alors ici, vous avez la lignée 1 et la lignée 2, qui sont les deux lignées majoritaires, et puis il y a une lignée 3 petite et une lignée 4 quasi absente. Et vous voyez qu'il y a des sérotypes de Listeria monocytogenes qui, en fait, correspondent à certains des clones de certaines des lignées, etc. Donc vous avez plein de Listeria monocytogenes, et si vous vous intéressez à savoir d'où viennent les souches de référence, elles ont été ici entourées en jaune, eh bien, vous voyez que c'est des souches qui appartiennent à ce qu'on appelle le complexe clonal 9 pour deux d'entre elles et le complexe clonal 7. Et donc, vous pouvez vous poser la question, pardon, quand vous avez tant de difficultés à reproduire une infection du système nerveux central expérimentalement, sur la pertinence d'utiliser ces souches. C'est ce qu'on s'est dit. Et donc, on s'est d'ailleurs posé la question, les souches qui sont responsables d'infection du système nerveux central, quelles sont-elles? Est-ce que c'est n'importe lesquelles ou est-ce que c'est un sous-groupe particulier? Et donc là, on a aussi utilisé les ressources que procure la santé publique et on a pu étudier de façon rétrospective plus de 6000 souches de Listeria d'origine alimentaire ou clinique et on a pu les génotyper. Et on les a classées ici par ordre de prévalence décroissante de complexes clonales. Donc vous avez CC121, CC1, CC9, etc. Vous voyez qu'en prenant une dizaine des premiers, vous avez 80% du total des souches. Donc finalement, la complexité, elle est grande, mais elle n'est pas incommensurable. On peut s'en sortir. Vous voyez que vous avez une information quant à la lignée, rouge pour la lignée 1, bleu pour la lignée 2, et puis vous avez une information quant à l'origine alimentaire ou clinique. D'accord ? Et donc la question, c'est de savoir est-ce que cette répartition, elle est le fruit du hasard ou quoi. Donc évidemment, on peut décomposer les choses en souches d'origine clinique et souches d'origine alimentaire. Et vous voyez, sans entrer dans les détails, que l'ordre des clones ici, ça doit être C1624, est différent de celui des souches alimentaires où c'est CC121 et CC9, les deux premières, de façon très statistiquement significative. D'accord ? Donc si on représente les choses de façon différente et que vous avez ici la fréquence des clones dans l'alimentation et la fréquence des clones d'origine alimentaire et la fréquence des clones d'origine clinique, vous voyez qu'il y a des clones qui sont principalement alimentaires et très peu cliniques, et puis des clones qui sont relativement rares dans l'alimentation mais très associés aux infections humaines. Et ce que vous voyez en petit ici, pour ne pas être trop embarrassé, c'est que les souches de référence, elles ne sont pas celles-ci. Elles sont ici, EGDE, donc c'est les souches que j'avais cerclées en jaune. Donc clairement, quand on voit ces résultats, on peut se poser la question de la pertinence de l'utilisation de ces souches de référence dont je vous ai parlé. L'autre chose qu'on a observée, et ça c'est en regardant de plus près les données de cette étude prospective dont je vous ai parlé au tout début, qui a maintenant permis de recruter plus de 1000 patients avec listériose. On a des données cliniques très détaillées, plus de 500 données cliniques par patient, et on a notamment ce qu'on appelle des comorbidités immunosuppressives. Donc ça c'est un grand sac qui rassemble toutes les causes d'immunosuppression associées à des pathologies XY et éventuellement à des traitements immunosuppresseurs. Et on peut regarder maintenant la prévalence des différents clones, qu'ils soient d'origine clinique ou d'origine principalement alimentaire, en fonction de l'immunosuppression, des comorbidités immunosuppressives. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a une corrélation inverse entre les clones associés à la clinique et la comorbidité. C'est-à-dire qu'il y a certains clones qui sont d'autant plus fréquemment isolés qu'il y a peu de comorbidité immunosuppressive, et au contraire, les clones plus prévalents dans les aliments et moins prévalents en clinique, ils sont plus fréquemment isolés chez des patients très immunodéprimés. Donc ça, ce n'est pas une surprise, on sait bien qu'une infection, c'est la somme de facteurs microbiens et de facteurs de l'hôte, des facteurs de virulence microbiens et des facteurs de susceptibilité de l'hôte, et que c'est quelque part sur cet axe que se situe le phénotype infection invasive ou juste portage ou rien du tout. Donc on s'est posé la question de savoir si ces résultats ne nous indiquaient pas que certaines souches pourraient être plus virulentes que d'autres, ce qui expliquerait simplement pourquoi, c'est la façon la plus triviale de l'expliquer, qu'elles soient plus fréquemment retrouvées en clinique que d'autres souches qui sont relativement fréquentes dans les aliments mais qui seraient peu responsables d'infection simplement parce qu'elles seraient moins virulentes. Donc si j'en parle, c'est qu'on a testé cette hypothèse. Et ici, on a mesuré expérimentalement la perte de poids, qui est un phénotype assez brut et simple, après infection par voie orale, de représentants des différents clones, ici à jour 3 et à jour 5. Et vous voyez très clairement que les clones dits cliniques, ils induisent une perte de poids très significative par rapport aux souches de référence, qui finalement induisent une perte de poids relativement modeste. Et les souches qu'on pourrait qualifier d'hypovirulentes, qui sont ici les souches d'origine alimentaire, qui elles sont aussi un gain de poids parce qu'on utilise des souris qui sont encore en croissance. Donc vous voyez très clairement qu'il semble y avoir une différence en termes de pouvoir pathogène de ces souches. Et si on regarde précisément au sein des organes le nombre de bactéries après infection par voie orale, je vous passe tous les détails, mais je vous demande de vous focaliser ici sur le cerveau. Je crois qu'il est assez clair que ces souches, là dont je vous ai parlé, 1, 4 et 6, qui sont justement associés aux infections cliniques, aux infections et notamment aux infections du système nerveux central, sont associés à une charge bactérienne dans le cerveau beaucoup plus importante que les souches de référence. Donc ici, on a une explication de la raison pour laquelle on a si peu de bactéries dans les modèles expérimentaux avec les souches de référence, c'est juste qu'elles ne sont pas neurotropes. Et donc si on peut se dire que si on prend ces souches, on va sans doute avoir un meilleur modèle d'infection. Une autre possibilité, évidemment, c'est d'immunosupprimer la souris, comme je vous en ai parlé. Alors, une fois qu'on a finalement mis en évidence cette biodiversité et que certaines souches ont des phénotypes différents, il suffit d'essayer d'étudier un peu leur contenu en gènes pour essayer de voir quels gènes sont associés avec le phénotype et éventuellement la fonction. Donc, je n'entre pas dans les détails ici, mais vous savez que certains gènes sont conservés au sein de l'espèce, c'est ce qu'on appelle le corps génome, et puis certains gènes sont spécifiques de certains clones, de certaines bactéries, c'est ce qu'on appelle le génome accessoire, et c'est bien sûr plutôt dans le génome accessoire associé aux souches hypervirulentes qu'on va essayer de chercher les gènes de virulence responsables par exemple du neurotropisme. Donc ici je ne vais pas détailler tout ça, mais vous voyez un arbre phylogénétique de tous ces clones, et puis ici vous avez présence ou absence de gènes en noir ou en gris, dans les différents clones. Et ce qu'on cherche, par exemple, pour un clone hypervirulent comme CC4, c'est un cluster de gènes qui ne serait présent que dans ce clone. Et donc peut-être que si ce cluster de gènes n'est présent que dans ce clone, c'est lui qui porte en partie la virulence associée à ce clone. Donc en fait, ce cluster de gènes, par l'annotation, on peut voir qu'il est censé codé pour un transporteur de sucre et donc être impliqué dans une voie de signalisation et de régulation du métabolisme de Listeria monocytogenèse. Tout ça n'a pas été vérifié au plan expérimental, mais c'est la notation qui nous le dit. Il faut savoir que des transporteurs dits PTS chez Listeria monocytogenèse, il y en a plus de 10. Donc il y en a un de plus, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on enlève ce PTS, eh bien, on a une perte de virulence et notamment du neurotropisme. Donc ça, ici, vous avez les données dans le sang et dans le cerveau. Vous voyez que, alors qu'il n'y a pas de différence de charge bactérienne au niveau du sang, il y a une différence de charge bactérienne au niveau du cerveau, et quand on fait les ratios, c'est très significatif. Donc clairement, ce cluster de gènes semble être impliqué dans le neurotropisme de Listeria et c'est complémenté, donc c'est expérimentalement concluant. Alors, on ne sait pas du tout comment ça marche. On n'a pas pu trouver pour l'instant de sucre qui soit spécifiquement transporté par ce transporteur. On ne sait pas non plus s'il est fonctionnel, etc. Et c'est clair que c'est juste une illustration de l'approche de génomique comparative pour identifier des facteurs de virulence, mais il y en a certainement beaucoup d'autres. Et bon, je n'entre pas dans les détails, mais on a quelques idées sur d'autres gènes ou d'autres régulations qui pourraient rendre compte de cette hypervirulence. Et c'est clairement un nouveau pan de recherche qui s'ouvre. Ce que je voudrais dire, c'est que je vous ai dit au tout début, je vous ai parlé de l'identification d'INLA et d'INLB par le biais du screening d'une banque de mutants obtenue par transposition, donc à partir du génome simple d'une souche de référence. Maintenant, ce qu'on a, c'est l'entièreté des génomes. On en a séquencé plus de 20 000. Et donc, bon, c'est un peu large comme éventail des possibles. Il y a dans ce pangénome de Listeria monocytogenèse beaucoup de choses qui rendent compte de la persistance dans l'environnement, de la virulence plus ou moins grande, etc. Et donc, c'est ça qu'il faut essayer de décrypter. On a un terrain de jeu vraiment très large. Alors, une autre chose, évidemment, qu'on essaie de faire, c'est de reprendre par le biais du phénotype biologique les mécanismes. Donc on voit ici avec les souches hypervirulentes des monocytes infectés qui sont en contact avec les micro-vaisseaux du cerveau. Ce qu'on veut, c'est essayer de comprendre quels sont les mécanismes liés à ces souches particulières qui permettent ce phénotype et qui permettent ensuite la dissémination de la bactérie au plan du cerveau, au niveau du cerveau. Je voudrais juste finir sur les deux dernières diapositives pour vous dire que, ayant constitué cette cohorte de patients, qui est assez unique, encore une fois, grâce au système de surveillance français, eh bien, on peut avoir les données cliniques détaillées et on a trouvé, ce qui n'est pas forcément très étonnant, donc au sein de cette étude qu'on a appelée Monalisa, avec plus de 350 cas de neurolystériose, on a trouvé des patients qui n'ont pas de comorbidité, c'est-à-dire ils n'ont pas d'autres maladies, de déficit immunitaire connus, de traitements immunosuppresseurs en cours. Et donc évidemment, ces patients, ils sont éventuellement candidats pour avoir un déficit immunitaire qui s'ignore. C'est plutôt des gens jeunes, ils ne sont pas particulièrement infectés avec des souches hypervirulentes. Et donc on essaie, avec l'aide de collègues comme Dusan Bogunovic aux États-Unis et Luis Quintana et Étienne Patin à l'Institut Pasteur, d'essayer d'identifier des nouveaux facteurs qui puissent rendre compte de cette susceptibilité éventuelle à Listeria monocytogenèse. Ce n'est sûrement pas une susceptibilité isolée à cette bactérie, enfin c'est en tout cas peu probable. Et puis ce que je vous ai dit en un mot, c'est que maintenant on utilise dans le cadre de la surveillance pour finalement comparer les souches et savoir si on a des cas groupés pour identifier les sources de contamination, le séquençage, qui est devenu tout à fait abordable et dont l'analyse des génomes est relativement simple. Et donc on peut l'utiliser non seulement pour la surveillance, mais aussi comme outil de recherche pour de la génomique comparative et des genome-wide association studies entre les données cliniques et tout le génome bactérien, éventuellement le génome humain. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de données à analyser et c'est assez passionnant. Donc je vais en terminer, juste en résumant des notions assez simples qui d'ailleurs ont été aussi évoquées par Alain. Pour ce qui concerne Listeria, mais c'est vrai aussi pour d'autres pathogènes, les interactions autres pathogènes, c'est celles qui gouvernent le tropisme cellulaire, tissulaire et d'autres. Donc ça pourrait se décliner pour beaucoup de pathogènes. Regarder en détail comment un pathogène interagit avec une cellule, un tissu, un autre, c'est clé pour comprendre ce qui se passe. Donc ça s'applique à Zika, à Mycobacterium tuberculosis, à n'importe quoi. C'est important de disséquer en détail la biologie moléculaire et cellulaire de ces agents infectieux. Ce qui est sûr, c'est que les microbes et leurs hôtes sont très divers. Je vous ai parlé de la biodiversité des microbes, évidemment, et la biodiversité de l'hôte, ça a été discuté tout à l'heure. Les micro-organismes et leurs hôtes co-évolue et donc on le voit bien concernant Listeria, il y a la question de savoir qu'est-ce qui a permis à Listeria d'acquérir ces facteurs de virulence. C'est certainement pas les traitements immunosuppresseurs qui sont donnés larga manu aujourd'hui, c'est sans doute dans un hôte plus simple et possiblement d'ailleurs qui n'a pas d'immunité adaptative que Listeria a développé son cluster de virulence qui lui permet de survivre dans les macrophages. Elle est a priori pas très douée pour échapper à la réponse T-cytotoxique, encore qu'on on peut en discuter. Et donc, il y a toute la question de savoir d'où viennent ces gènes, quelles sont les forces qui permettent de les maintenir, ou au contraire, est-ce qu'il y a des environnements dans lesquels ces gènes disparaissent. Et voilà. Donc, je vais maintenant conclure en, bien sûr, remerciant les nombreuses personnes qui ont participé au travail que j'ai présenté, les personnes actuelles et passées du laboratoire, les personnes du centre de référence dont j'ai parlé également, les collaborateurs à l'Institut Pasteur et ici d'Ussad à New York, mes collègues de l'hôpital Necker dans lequel je travaille aussi dans le service des maladies infectieuses, et puis les soutiens financiers, et vous pour votre attention.